Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et Frédéric Milano, et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Fabien Capel. Que la vie soit une masse sombre et terrifiante, je ne vous le fais pas dire. Que le désir de fuir soit si partagé paraît donc redoutablement logique, et pourtant la gourmandise de ce matin s'y oppose. C'est un conseil d'Eleanor Roosevelt qui recommandait de faire chaque jour une chose qui nous effraie. Il n'est évidemment pas question ici de choses délétères. Faites chaque jour quelque chose qui vous effraie et vous verrez peut-être que l'appréhension est souvent pire que la chose crainte. Née au Liban, en pleine guerre civile, notre apothicaire de l'âme passe ses premières années à Beyrouth et connaît deux exils dès l'âge de 4 ans. Il quitte son pays pour s'installer en France avec ses parents et perd sa langue maternelle, l'arabe, qu'il ignorera délibérément pour s'intégrer parfaitement à sa nouvelle adresse. Après des études de sociologie, une maîtrise d'histoire à Lyon et un master de journalisme au CELSA, il devient journaliste politique au quotidien Le Monde, rédaction dans laquelle il aura plusieurs titres, notamment chef du service politique et rédacteur en chef du Monde.fr, directeur de l'innovation éditorial et depuis 2017, journaliste chargé des sujets énergie dans le cahier Économie du quotidien. Une trajectoire dont l'homogénéité est quasi esthétique, malgré une parenthèse d'un an à la fondation Niemann pour le journalisme à Harvard. Notre invité enseigne également à l'école de journalisme de Sciences Po. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Pas cette année.
Et a récemment publié l'essai « L'arabe pour tous » aux éditions du Seuil, ouvrage dans lequel il revient sur son rapport à la langue arabe et à la place de celle-ci dans l'enseignement actuel. Bonjour Nabil Wakim.
Bonjour.
Nabil Wakim, quel est votre rapport à la mélancolie ?
Lointain.
Oh, la chance !
C'est un rapport lointain. En fait, pendant longtemps, je crois que j'ai pas bien compris cette histoire de mélancolie. Enfin, je veux dire, je comprends le stress, l'angoisse, la colère, tout ça, je connais. Mais la mélancolie, je crois que pendant longtemps, ça m'a semblé être un peu une sorte de truc un peu nostalgique et à vrai dire aussi un peu oriental, c'est-à-dire les Libanais, les proches orientaux, ils ont un rapport comme ça à la nostalgie, c'était mieux avant. Bon, le Liban, c'est un pays qui va pas très bien et donc souvent les gens s'imaginent que avant tout allait bien et que aujourd'hui tout est la catastrophe. Alors c'est vrai, aujourd'hui tout est la catastrophe. Mais du coup, j'imaginais que c'était un truc comme ça, un peu qu'on s'inventait soi-même pour pas affronter le présent. Et puis bon, il faut quand même reconnaître que depuis un an, dans cette éprouvante leçon d'humilité que nous fait vivre cette crise sanitaire, même moi, je dois dire que j'ai parfois cédé à cette histoire de mélancolie. Je dois dire que c'est un côté qui est quand même un petit peu épuisant. C'est-à-dire de se dire, je trouve pas que ce soit très agréable de se complaire dans la mélancolie et de se dire, oh là là, je vais pas bouger, regarder des fleurs.
Mais vous pensez qu'on se le dit activement? Vous pensez que c'est un choix, Nabil Wakim?
Mais non, bien sûr que non.
On le subit souvent.
Mais bien sûr que non. C'est certainement subi, mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour essayer de se retrouver dans une situation qui est différente. Et je crois que, alors peut-être que c'est aussi le fruit de mon histoire et de l'histoire de plein de gens, mais en fait, il y a plein de choses qui peuvent aussi nous permettre de relativiser et de regarder la situation avec d'autres lunettes que celles qu'on porte actuellement.
Comme quoi, par exemple ?
Bah, en fait, moi je viens d'un pays qui a connu la guerre, mes parents ont fui cette situation, et même si eux disent que ça n'avait rien à voir avec ça, en fait, ils sont quand même partis d'une situation qui était assez dramatique, et j'ai grandi dans un environnement dans lequel, on me disait toujours qu'il y avait toujours pire. Quelque part, c'est faux. C'est-à-dire, il faut pas minimiser les souffrances qu'on peut vivre à un moment donné. Et moi-même, quand il m'arrive des choses pas bien, j'ai appris à dire, en fait, je suis pas content de cette situation. Mais pour autant, c'est quand même une force d'être capable de se dire, si je chose d'autres lunettes qui me permettent de regarder le monde un peu autrement, peut-être que j'ai la chance de me sortir de cet état-là et de me retrouver dans un autre état.
Donc relativiser plutôt, d'après ce que vous dites, Nabil Wakim, mais vous n'avez jamais été sujet à de grands accès de tristesse ?
Si, bien sûr. Ça m'est même arrivé très récemment. Je peux dire pourquoi. Il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui est décédé, qui est un pasteur, qui s'appelle Jean Costil, qui était un des dirigeants historiques d'une association de solidarité avec les immigrés qui s'appelle la CIMAD. et qui a beaucoup compté pour moi, parce que quand j'étais étudiant, je m'intéressais beaucoup aux questions de droits des étrangers, et c'est quelqu'un qui a initié notamment la marche des beurs dans les années 80, qui a été une des personnes centrales pour que les immigrés aient des droits en France, et qui s'est notamment battu contre ce qu'on appelait la double peine, et qui m'a appris énormément de choses dans mon rapport à la vie, à la politique. Et je voulais d'ailleurs lui envoyer mon livre, et puis ben, comme souvent dans la vie, j'ai oublié, c'est passé. Et puis, quelques temps après la sortie du livre, j'ai appris son décès, et je profite ici pour lui rendre hommage. Mais bien sûr, ça m'a plongé dans un grand accès de tristesse, et peut-être que c'est ça aussi la mélancolie, c'est de se dire, ah juste, c'est ce que j'aurais dû faire. J'ai raté ce moment de ma vie, et j'aurais dû le saisir. Et quelque part, quand je dis relativiser, évidemment, c'est toujours un peu facile de le dire comme ça, mais une manière pour moi de me sortir de cet état-là, c'est de me dire, bah finalement, si je veux honorer sa mémoire et si je veux faire quelque chose de ce qu'il m'a appris, eh ben c'est ça qu'il faut que je fasse, si je veux pas être mélancolique pour rien, si je veux que cette tristesse serve à quelque chose.
Oui, c'est presque stoïcien, en fait, c'est ce qui est en notre pouvoir, puisque ce qui est passé est passé. On n'a plus de pouvoir dessus.
Ouais, ça veut pas dire qu'il faut pas s'intéresser à ce qui est passé. Oui. Moi, j'adore l'histoire et j'adore regarder ce qui s'est passé avant, et c'est riche d'enseignements. Maintenant, on en est là.
Vous êtes tourné vers l'action, Nabil Wakim, comme on va le voir dans ses remèdes. Et là, vous décriviez un deuil. Donc, il y a un objet, c'est une tristesse avec objet. C'est donc pas de la mélancolie, puisque la mélancolie, ça peut être sans objet.
Ah, ça compte pas.
Si, ça veut dire que vous êtes humain.
Merci.
De quoi va-t-on parler dans quelques instants avec vous, Nabil Wakim, d'Antonio Gramsci, d'Albert Jacquard, de Jhumpa Lahiri, de Férouz, d'Harry Belafonte, de Claude Sautet, de Bagatelle, de danse, de jeu, de débat et du Liban, et puis peut-être de quelques gourmandises, juste après Benny Sings, Nobody's Fault, dans la programmation France Inter.
Till it's over.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Nabil Wakim.
Quando ho lasciato New York, no, quattro anni fa, cercavo altro, nel senso cercavo un altro approccio, un altro linguaggio, ma non necessariamente un'altra lingua per la mia scrittura, ecco, un altro stile, un altro approccio. Ed è stato molto, come dire, fortuito questo arrivo a Roma. Una settimana dopo, stranamente, senza pensarci, ho iniziato a scrivere in italiano.
Quand j'ai quitté New York, je cherchais quelque chose de différent, une approche différente, un autre ton, un autre style, mais pas forcément une autre langue. Mon voyage à Rome est arrivé par hasard et une semaine plus tard, sans y penser, j'ai commencé à écrire en italien. Interview de l'auteur de votre sérum littéraire en 2016, Nabil Wakim, l'écrivain Jhumpa Lahiri, qui est né à Londres de parents bengalis, a émigré à l'âge de 2 ans aux États-Unis et a toujours nourri une passion amoureuse pour l'italien. Vous avez choisi l'ouvrage dans lequel elle aborde le sujet, son premier livre écrit directement en italien, en d'autres mots, paru en 2015 chez Actes Sud en français, et vous en parlez dans L'Arabe pour tous, ça vous a ému, vous soulignez l'exploit qu'elle a réalisé.
Moi, je trouve que c'est très beau parce que c'est elle raconte elle-même cette bataille intérieure qu'elle a entre sa langue maternelle, qui est le bengali, et puis l'anglais, qui est la langue qu'elle pratique tous les jours et dans laquelle elle écrit. Et finalement, elle trouve refuge dans cette troisième langue qu'est l'italien, où elle se construit un peu aussi une autre personnalité, un autre mode de vie, un autre rapport à ses proches. Et dans ce livre-là, en d'autres mots, je trouve qu'elle le raconte d'une manière qui est hyper touchante et formidable. Et quelque part, cette troisième langue, elle fonctionne un peu comme une langue refuge. Moi, une partie de ma vie est tiraillée entre le français et l'arabe, mais finalement, l'anglais et l'espagnol, surtout l'espagnol, qui est une langue que j'aime beaucoup, en fait, c'est très souvent, les choses me viennent en espagnol, là aussi, dans des moments parfois d'énervement, de colère ou de joie, ou de musique, aussi un peu avec cette idée de refuge. Et puis j'aime bien cette idée qu'on est différent dans les différentes langues qu'on parle, et que du coup, ça peut nous aider à répondre à différents moments de notre vie, et que on n'est pas exactement la même personne dans les différentes langues, même si on les parle pas parfaitement, c'est pas grave. En fait, c'est aussi des terrains d'exploration et puis c'est des ouvertures d'esprit qui sont formidables.
Parce que, justement, Jhumpa Lahiri, j'ai écouté des interviews d'elle en anglais, elle a l'air beaucoup plus humble en anglais et en italien, elle a l'air plus prétentieuse. Je ne l'accuse pas de l'être, je ne la connais pas, mais en italien, voilà, il y a une préciosité qu'elle n'a pas en anglais. Vous pensez, Nabil Wakim, qu'on peut vraiment changer de personnalité selon la langue ?
Je sais pas si on change de personnalité, mais c'est certain que d'abord les langues nous structurent. Et puis il y a aussi ce qu'on connaît des langues. Moi, par exemple, en arabe, c'est ce que je raconte un peu dans le livre. Bon, je parle mal l'arabe et puis j'ai un arabe très très domestique. Donc en fait, ce dont je suis capable de parler en arabe, c'est de ce qu'on va manger à midi. Je peux commander au restaurant. Voilà, pas grand chose d'autre. Donc en arabe, je suis très très tourné vers la nourriture. Bon, voilà, je peux pas parler de géopolitique ou parler du changement climatique. En français, je peux.
Et Nabil Wakim, vous écrivez justement dans L'Arabe pour tous que vous avez un rapport plutôt de honte, vous n'assumez pas d'être un arabe qui ne parle pas arabe.
Ouais, pendant longtemps, j'ai eu la honte inverse, j'ai eu la honte de la honte de l'arabe comme langue. En fait, je voulais pas cette langue dans ma vie. Et puis, plus tard, et notamment en apprenant l'espagnol, je me suis rendu compte qu'en fait, il me manquait cette case-là. Et qu'en fait, petit à petit, j'ai été submergé d'une honte que j'ai toujours, celle de ne pas parler cette langue qui est ma langue maternelle, qui est la langue que mes parents parlent, qui est la langue de mes grands-parents, et que je peine aujourd'hui à reconquérir.
Et donc, à 15 ans, vous avez lu tous les Rougon-Macquart de Zola? Pour fuir l'arabe.
À l'époque, je savais pas que c'était pour fuir l'arabe. C'est parce que je pensais que c'était formidable. Et aussi parce que probablement ça me donnait un genre.
Jhumpa Lahiri dit aussi dans son livre, en d'autres mots, que l'envie d'écrire dans une autre langue est venue aussi d'une sorte de désespoir. Elle voulait posséder une langue qui n'avait rien à voir avec sa vie. C'est une fuite, en fait. Ça, Nabil Wakim, vous ne l'avez jamais éprouvé ?
En fait, si. Et d'ailleurs, le passage que vous évoquez là, dans lequel que je raconte dans le livre, sur le fait que quand j'étais ado et que je partais au Liban, un été, j'ai amené tous les Rougon-Macquart avec moi, je l'ai écrit en anglais. Je l'ai écrit en anglais pendant mon année aux États-Unis dans un atelier d'écriture. Et en fait, c'est notamment de cet extrait-là qu'est venu le livre. Donc comme quoi, c'est le potentiel libérateur des langues.
Est-ce que vous avez un petit extrait à nous lire ?
De Jhumpa Lahiri ?
Ouais.
Oui, dans l'intro que j'aime bien, il y a un moment où elle raconte ce qu'elle est face à un lac. qu'elle doit traverser et qu'elle n'arrive pas à traverser et que elle doit s'y reprendre à plusieurs fois, plusieurs brassées pour avoir cette idée d'arriver jusqu'au bout et de revenir. Elle dit « Pendant 20 ans, j'ai étudié la langue italienne comme si je nageais le long des contours de ce lac, toujours à côté de ma langue dominante, l'anglais, le longeant toujours. C'était un bon exercice, bon pour les muscles, pour le cerveau, mais pas vraiment palpitant. En étudiant une langue étrangère, de cette façon-là, on ne peut pas se noyer. L'autre langue est toujours là pour te soutenir, te sauver. Mais on ne peut pas nager sans prendre le risque de se noyer, de couler à pic. Pour connaître une nouvelle langue, pour s'immerger, il faut quitter la rive, sans bouée de sauvetage, sans pouvoir compter sur la terre ferme. »
Jhumpa Lahiri, en d'autres mots, lu par vous, Nabil Hakim. On reste en Italie avec votre première citation Becky. Elle est attribuée à l'écrivain, penseur et membre fondateur du Parti communiste italien Antonio Gramsci, probablement emprunté à Romain Rolland. Gramsci l'emploie dans ses cahiers de prison en 1929, puisqu'il a été emprisonné par le régime mussolinien de 1926 à sa mort en 37. Il y a 30 cahiers à peu près qui existent. Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. C'est une morale de l'action, ça, Nabil Hakim.
Oui, mais à la fois, c'est l'idée de se dire il ne faut pas être optimiste béat. Je disais tout à l'heure, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mélancolie et tout. C'est évidemment pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, oh là là, tout va toujours aller bien. En tout cas, c'est ce que j'essaye, moi, de ne pas me dire. Bien sûr qu'il y a des problèmes, et on le sait en ce moment. Enfin, je veux dire, on est dans une crise sanitaire maboule, il y a une crise économique majeure, et on a devant nous une crise climatique qui va rendre notre planète inhabitable. Donc, on a quand même des raisons d'être pessimiste. Mais on peut être pessimiste d'une manière intelligente, en se disant, bah, voilà, comment on va faire face à ces problèmes, et surtout comment on va y faire face collectivement. Et je crois qu'en fait, dans cette formulation, même si c'est pas dit comme ça, il y a un appel à l'intelligence collective, c'est-à-dire l'optimisme solitaire de celui ou celle qui voudrait toujours voir que tout va bien, pour moi, ça s'oppose à cette espèce d'intelligence collective qui peut essayer de trouver des solutions aux problèmes.
Maboul, c'est un mot arabe d'ailleurs, puisque vous avez évoqué ce mot, Nabil Hakim. Non mais,
oui,
il y a
vrai,
beaucoup de mots arabes qu'on emploie sans le savoir.
Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais au Liban, très souvent, Nabil est réduit en un surnom qui est Naboul. Voilà.
Ah oui?
Maintenant, vous le saurez.
Mais ça y est, nous le savons. Mais alors, vu qu'on, là, on fait des transitions qui ne se suivent absolument pas, j'en profite pour sauter, comme ça, en toute impunité, vers l'autre citation que vous avez choisie, Nabil Hakim, celle de l'ingénieur biologiste et généticien humaniste Albert Jacquard. « J'aimerais lutter contre cette idée qu'il faut être un gagnant. Qu'est-ce qu'un gagnant ? C'est un fabricant de perdants et je n'ai pas le droit de fabriquer des perdants. » Il se dresse ainsi contre l'idée de palmarès.
Oui, absolument. Le texte de Jacquard parle notamment de l'éducation et des notes. Mais je crois que dans la période qu'on traverse actuellement, c'est aussi intéressant de s'arrêter là-dessus et de se dire, là aussi, ben, comment on répond collectivement aux problèmes qui nous font face. C'est-à-dire que, oui, peut-être que la mélancolie peut être une solution, mais à ce moment-là, il faut une politique de la mélancolie. Il faut s'y mettre collectivement et se dire, bon, ben voilà, qu'est-ce qui nous rend triste, qu'est-ce qui nous rend heureux et comment on trouve des réponses ensemble qui nous permettent de faire face à la crise sanitaire, à la crise écologique, à ce qui nous rend malheureux et rend nos vies plus dures et plus violentes.
Là, quand j'écoute ce que vous dites, Nabil Hakim, et que je pense à cette citation de Jacquard, je peux pas m'empêcher d'avoir envie de vous demander, est-ce que vous ne vous comparez jamais à autrui ?
Si, bien sûr, on se compare toujours. On se compare toujours parce qu'on se nourrit des autres. Et bien sûr que oui, moi je suis journaliste, donc évidemment je vois ce qu'écrivent mes collègues tous les jours et je me dis, oh là là, dis donc, ils sont super ces articles, à lui ou à elle. Alors j'aurais dû penser à appeler Bidule ou machin, bien sûr que si, dans la vie de tous les jours.
Et la comparaison, ça engendre la plupart du temps un sentiment négatif.
Oui, ça engendre un sentiment négatif, mais ça peut aussi engendrer des choses positives, c'est-à-dire que, enfin... D'une certaine manière, c'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on se compare, c'est pas même parce qu'il y a de la compétition que tout ça, forcément, nous conduit à nous écrabouiller les uns les autres. Moi, j'aime le jeu, j'aime jouer,
ouais,
j'aime les
jeux
vidéo, j'aime les jeux de cartes, j'aime tous les types de jeux. Dans les jeux, il y a des gagnants et des perdants. Mais ce qu'on recherche dans le jeu, c'est pas d'écrabouiller l'autre. Même si moi
ça
aussi, j'aime bien gagner.
Et écrabouiller les autres.
J'aime bien gagner, absolument. Et ma fille de 5 ans et demi aussi aime bien gagner. Mais finalement, si on a passé un bon moment, c'est pas d'abord parce qu'on a gagné, c'est parce qu'on a fait quelque chose tous ensemble dans lequel on a passé un moment heureux.
نحن والقمر جيران بيت خلف تلالنا بيطلع من قبالنا يسمع الألحان نحن والقمر جيران عارفين وعيد دارك بأرميدنا أجمل الألوان.
Nabil Wakim, vous connaissez par cœur grâce au voyage d'enfance en voiture, les chansons de Brassens et de Bobby Lapointe, mais rien de la grande Férouse adorée par vos parents. C'est elle qu'on entend en 2010 chanter un titre que je vais vous demander pour votre bien linguistique de prononcer.
Nahna wal amar jiran. Ça veut dire nous sommes les voisins de la lune, ou la lune est notre voisine.
Et Férouse,
elle qui nous regarde la nuit.
Ça veut dire turquoise?
Je sais pas.
D'accord. Et alors, cette chanson, pourquoi ce choix? Est-ce que vous comprenez toutes les paroles?
Alors d'abord, il faut dire aux auditrices et aux auditeurs de Remède à la Mélancolie qu'on n'a pas le droit de mettre de chansons de Brassens, parce que tout le monde met des chansons de Brassens quand il est mélancolique.
Oui, c'est vrai, on censure dans le questionnaire.
Et c'est un peu bizarre d'ailleurs, parce que finalement, pourquoi on écoute Brassens quand on est mélancolique? Moi, ça me rend plutôt joyeux, Brassens. Mais, enfin, peut-être que c'est pour ça, remarquez.
Bah, justement, c'est le but de l'émission, vous savez, ça s'appelle Remède à la Mélancolie.
C'est pour trouver des remèdes.
Et pas venez, on va tous dans la mélancolie à tout jamais et on n'en sort plus.
C'est pour ça, c'est pour ça.
Détective Wakim. D'accord.
Voilà. J'ai finalement compris.
Bravo.
J'ai bien fait de venir.
Ça, c'est un journaliste d'investigation.
Exactement, je suis au bout de l'enquête. Non, j'aime beaucoup cette chanson de Fairouz, pas simplement parce que c'est une des seules dont je peux prononcer le titre, mais parce qu'évidemment, elle me fait penser à mes parents, et en particulier à ma mère, qui est une grande fan de Fairouz, et aussi qu'elle elle porte en elle une forme de mémoire de ce qu'est le Liban, de ce qu'est le Proche-Orient, de son histoire, de sa beauté culturelle, et donc ça, rien que ça, c'est juste formidable.
J'ai dit Férouz, donc évidemment, et c'était Férouz. Merci. Alors, on passe à l'autre antidote musical, Nabil Wakim. C'est un manto, je le prononce sans doute excessivement mal. C'est une musique populaire jamaïcaine, le manto, M-E-N-T-O. Ça s'appelle Day-O, c'est aussi appelé Banana Boat Song. Ça date de 1952 et c'est repris par le comédien et chanteur Harry Belafonte en 56. On va l'écouter, mais je voudrais dire un petit mot dessus avant qu'on l'écoute. Il y a une histoire de mélange aussi, puisque Belafonte est né à New York. Il grandit en Jamaïque, l'île natale de sa mère. Il rentre à New York à la fin des années 40 lorsqu'il est adolescent. Il a 93 ans aujourd'hui. Et cette chanson, vous avez vu Beetlejuice de Tim Burton?
Absolument, il y a une scène magnifique de Beetlejuice où les gens se mettent à danser contre eux-mêmes à l'écoute de cette chanson. Et je crois que ça dit beaucoup de choses de ce que la danse et la musique peuvent nous apporter comme bonheur.
Et on peut pas être triste sur cette chanson.
C'est difficile.
Daylight come and me wan go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me wan go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me wan go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me wan go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me wan go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me wan go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me wan go home.
Day, is a day. Beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and me wan go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and me wan go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me wan go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me wan go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me wan go home.
Day-o,
command me one go home. De, misete, 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 be like command me one go home.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie du journaliste Nabil Wakim.
Comment ça va?
Très bien.
Vous êtes cousin?
Avec qui?
Ah ben, avec la famille, avec vos amis.
Ah.
Ah bon, je croyais. Il y en a tellement, hein. Où elle est?
Partie avec une dame.
Qu'est-ce que vous racontez?
Qui?
Eh ben, Rosalie. Vous parliez, là.
Je vais vous dire la vérité, César. J'aime Rosalie.
C'est normal, ça. Tout le monde l'aime. Non, mais... Vous parlez sérieusement, hein? Il y a longtemps?
Depuis... Toujours.
1972, César et Rosalie, la scène de la rencontre entre David, joué par Samy Frey, et César, joué par Yves Montand. Rosalie, c'est Romy Schneider. Et c'est un triangle amoureux. Nabil Wakim, pourquoi avoir choisi ce film qui est absolument magnifique, mais qui nous fait passer du rire aux larmes en deux minutes à chaque scène?
C'est vrai, d'ailleurs, la première fois que j'ai vu ce film, j'ai pleuré, c'était dans un avion. Et c'est très rare de pleurer dans un avion devant un film, en tout cas pour moi. Mais je trouve que c'est un film qui est absolument magnifique, dans lequel... C'est formidablement raconté, mais je trouve aussi que ça dit plein de choses qui sont très contemporaines aussi. Sur, c'est pas simplement un triangle amoureux, c'est aussi plein de questions qu'on se pose tous sur le couple, sur l'amour, sur comment on fait pour vivre ensemble, qu'est-ce qu'on cherche les uns chez les autres. Et moi, ça me touche beaucoup. J'aime bien cette scène-là aussi entre Samy Frey et Yves Montand, parce que quelque part, ils sont tous les deux à la fois mignons et insupportables, parce qu'ils sont tous les deux, ils incarnent deux types de masculinité un peu bizarroïde, Samy Frey, l'espèce de beau gosse arrogant, sûr de lui.
Très sérieux.
Et Yves Montand dans cette forme de déni un peu comique, en disant « Mais oui, Rosalie, tout le monde l'aime, c'est bien normal. »
En même temps, bouleversant, Yves Montand. Il y a la mélancolie d'Yves Montand dans ce film, elle est bouleversante.
C'est vrai. Mais je crois que ce que j'aime aussi dans ce film, c'est la liberté de Romy Schneider. C'est-à-dire que Rosalie, à la fin, pardon pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu ce film, mais à la fin, elle choisit de... Elle choisit elle-même, elle choisit sa propre liberté. Et c'est pas une leçon, simplement. Je trouve que c'est très beau et très moderne, finalement.
Il y a cette réplique sublime dans le film, Nabil Wakim. C'est César qui dit à David, tu vois David, si elle t'a, donc il parle de Rosalie, ensuite elle reviendra vers moi, alors que si elle t'imagine, c'est le pire, à l'imagination, je suis battu, moi. Vous êtes d'accord, Nabil Wakim?
C'est drôle, parce qu'Yves Montand, dans ce film, il dirige une casse, je crois. Et donc, lui, il est dans ce truc très, très matériel, comme ça. Et donc, l'imagination, c'est pas son territoire. C'est évidemment un peu des... Tandis que David, lui, il est, de mémoire, il est peintre, ou il dessine des BD, voilà. Donc, il est artiste. Et donc, il y a un peu aussi cette opposition, qui est pas exactement une opposition de classe, qui est plutôt une opposition culturelle, entre les deux types de choses qu'ils font. Est-ce qu'on gagne à l'imagination? Est-ce qu'on perd à l'imagination? C'est une bonne question. Hein.
Est-ce que parfois, quand on atteint enfin ce qu'on désire, on s'en désintéresse?
Ouais, absolument. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans le désir? C'est peut-être le processus.
Ouais. Alors on sera toujours insatisfait. Voilà.
Mais non, au contraire, on peut toujours être satisfait de désirer et d'aimer.
Deux écoles s'affrontent.
Thank you.
Making Love, Derby Hancock pour illustrer votre idée consolatoire. Nabil Wakim, faites l'amour, pas les magasins, un slogan qu'on voit régulièrement posté dans les villes par des citoyens et des collectifs anti-pub, notamment à l'occasion de la Saint-Valentin. Mais parfois, les magasins sont plus accessibles que la bagatelle.
C'est vrai. C'est vrai, mais c'est aussi l'idée... Enfin, faites l'amour, c'est au sens large. C'est-à-dire, l'amour, c'est pas uniquement quelque chose de charnel. C'est pas forcément faire l'amour avec son ou sa partenaire. L'amour, c'est aussi l'amour qu'on porte aux autres, à ses amis, à ses animaux de compagnie, à plein d'autres choses et d'autres gens qui nous plaisent dans la vie. Simplement, c'est privilégier nos rapports humains et leurs forces, le lien que ça entretient. Moi, je suis heureux d'avoir des amis dont je suis très proche depuis très très longtemps et qui m'accompagnent dans la vie depuis toujours. Je n'aurais jamais écrit ce livre, je serais jamais devenu un journaliste au Monde, j'aurais jamais fait tout ce que je fais dans la vie si j'étais pas aimé et soutenu, et donc je crois que c'est très important pour moi dans la vie.
Et puis parfois quand on ne peut pas faire l'amour, il y a aussi les jeux vidéo. On entend la bande sonore du jeu vidéo Mario Kart, une version de 2017. Nabil Wakim, vous aimez jouer sur les écrans à Mario Kart ou au Scrabble. Est-ce que vous le faites souvent? Est-ce que vous le faites seul ou à plusieurs? Avez-vous un compte Discord? Parce que moi qui viens du 19e siècle, je découvre qu'il y a un nouveau réseau social du nom de Discord où on peut jouer aux jeux vidéo avec ses amis tout en discutant.
Alors malheureusement, je passe pas de temps sur Discord parce que j'essaye de limiter ma pratique du jeu à des horaires relativement raisonnables pour pas perdre mon emploi. Mais oui, j'aime jouer, j'aime toutes les sortes de jeux. Et pour moi, d'une certaine manière, les jeux de société, les jeux de cartes, les jeux vidéo, c'est la même chose. C'est d'abord un plaisir partagé avec d'autres, soit qu'on connaît, soit qu'on connaît pas. Mais oui, j'ai joué à Mario Kart pour la dernière fois hier soir avec ma compagne et ma fille. Et je dois dire que j'ai perdu. C'était pas grave, mais c'était quand même un peu embêtant parce que je perds toujours à Mario Kart contre ma femme et ma fille. Donc à un moment donné, il faudra aussi que ça s'arrête. Voilà.
Alors dans les autres activités qui vous revigorent, Nabil Wakim, il y a la politique au sens large. Je vous cite, parler, écouter et débattre des enjeux qui nous concernent, ça fait du bien. Ça fait du bien?
Bien sûr que ça fait du bien. Non mais les gens s'imaginent que la politique c'est des partis, les élections, les institutions, tout ça c'est effectivement c'est très chiant. Mais en fait c'est quand même parler de ce qui nous concerne
c'est
au quotidien.
C'est la vie de la cité.
C'est la vie de la cité et c'est nos vies aussi. Et c'est comment nos vies, comment on fait avec nos vies dans, le changement climatique par exemple, les débats identitaires dont on nous ressasse toujours la même chose à la radio, à la télé. On peut tous constater dans nos vies que la plupart du temps quand on parle de ces sujets-là avec ses amis, avec ses proches, la discussion elle est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus riche que dans ce qu'on en entend par bribes sur Twitter ou sur une chaîne d'infos en continu. Et moi, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien. Alors, c'est vrai que c'est difficile de nos jours puisque les restos sont fermés, mais j'aime bien les fins de repas au restaurant où on débat de la situation actuelle et de ce qu'il faudrait faire et qu'on fera peut-être jamais. Mais c'est pas grave parce qu'on reprendra quand même un quart de rouge.
Oui, mais Nabil Wakim, il y a peu de perspectives réjouissantes en ce moment.
Ça dépend. Ça dépend comment on se place. Alors bien sûr, il y a peu de perspectives réjouissantes parce que là, oui, c'est vrai, il y a une crise économique et sociale majeure.
Il y a une solitude terrible, il y a des dégâts aussi psychiatriques, moraux, terribles.
Absolument, et je crois qu'il faut absolument pas les nier, c'est majeur, on est dans une situation qui est extrêmement difficile. Bon, il faut pas se mentir, on va en sortir avec des difficultés. Mais on va en sortir, on va absolument sortir. Absolument, voilà, on va absolument sortir. Et puis surtout... Si on prend un tout petit peu de recul, en réalité, si on regarde sur les 100 dernières années, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. On a gagné des droits pour l'égalité homme-femme, on a gagné des droits dans le travail, on a gagné l'égalité à plein d'égards. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore plein de choses à gagner. Mais si on se place dans la perspective qu'on va jamais y arriver, qu'on s'en sortira jamais, c'est sûr qu'on gagnera jamais rien. Et donc du coup, c'est aussi dans nos discussions collectives, dans ces moments d'amour, de joie, de jeu, de politique, d'engueulade, qu'on crée ce que sera notre monde demain. Donc on a intérêt à se dire collectivement qu'il y a quand même cet espoir, comme on dit chez moi, le soleil passe aussi par les petites fenêtres.
Oh. Alors Nabil Wakim, il vous arrive aussi de nager et de danser, mais vous précisez pas en même temps.
Ouais, c'est très difficile, la natation synchronisée existe, mais vraiment c'est un art auquel je ne me risquerai pas.
Et la paresse est joyeuse chez vous ?
Ah ouais, La paresse est délicieuse. Ce que j'aime, je dois le confesser maintenant, c'est faire une sieste avant le repas de midi, c'est-à-dire aux alentours de 11h30, quand on a déjà commencé à faire des choses dans la journée, qu'on pense que sa journée est enclenchée, et là, prendre un moment, 20 minutes, 30 minutes, s'allonger, bouquiner un peu, regarder son téléphone, s'endormir un petit peu, je pense que c'est une des choses les plus délicieuses qui puissent nous arriver, et aussi, d'une certaine manière, les plus créatrices. C'est aussi parce qu'on a ces moments-là de repos, de déconnexion avec l'immédiateté de la journée que on peut s'ouvrir d'autres horizons, et ça, je trouve que c'est vraiment chouette.
Oui, il paraît d'ailleurs que la créativité vient dans les moments d'ennui.
Ouais, bien sûr, certainement. On le voit d'ailleurs chez les enfants. Les enfants qui s'ennuient, en fait, bah, c'est le moment dans lequel ils vont prendre leur Playmobil et puis ma fille, elle crée des histoires incroyables 2 minutes après avoir dit « je m'ennuie, je sais pas quoi faire ». Et puis ensuite, elle raconte une histoire incroyable de super-héros avec ses Legos.
J'attends le prix Nobel. Une parenthèse de légèreté capillaire avant de se retrouver juste après le titre de la playlist France Inter, « Tes cheveux » de Junior. Remède à la mélancolie sur France Inter avec Nabil Wakim qui nous emmène au Liban découvrir la citadelle de Byblos, château médiéval bâti par les croisés au XIIe siècle sur des fondations phéniciennes et romaines. J'imagine que vous y êtes allé.
Oui, absolument. Byblos, c'est Jbeil, c'est la ville de ma mère. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup d'abord parce que c'est très beau. Mais aussi pour plusieurs raisons. Bon, évidemment, parce que ça me fait penser à ma mère, voilà. Mais aussi parce que, en fait, on dit que c'est une citadelle croisée, mais comme vous disiez, en fait, c'est un site phénicien où il y a eu des Grecs, des Étrusques, des Romains, des Perses, des Croisés, des Ottomans, et tous, en fait, ont construit un bout de la citadelle en utilisant ce que les types d'avant avaient laissé. Et j'aime bien cette histoire-là parce que elle montre aussi ce qui est notre histoire commune, l'histoire de la Méditerranée, l'histoire du Proche-Orient, l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire des couches successives de civilisations et de cultures qui se sont servies les unes des autres et qui se sont nourries les unes des autres. Et ça, je trouve que c'est assez beau.
Oui, que la diversité, finalement, est un enrichissement, et c'est aussi une idée qu'on retrouve chez Jacquard.
Ouais, absolument. Même si, encore une fois, tout ça ne s'est pas fait avec des fleurs, et rarement une civilisation est arrivée en disant salut, on voudrait coopérer en utilisant vos restes, tout ça. Bon, ça s'est pas exactement passé comme ça. Mais néanmoins, je trouve qu'in fine, quand on regarde les choses avec un peu de recul, ça envoie aussi ce message-là de se dire, bon, bah, en fait, il faut aussi qu'on puise dans toutes ces richesses-là pour nous nourrir aujourd'hui.
Nabil Wakim, est-ce que vous pouvez nous répéter le nom en libanais de Byblos, qui veut dire petite montagne?
Jbeil.
Et alors, elle a été nommée Byblos par les Grecs parce que c'est de là qu'était importé le papyrus.
Il paraît.
Ouais, c'est joli.
Il paraît, c'est d'ailleurs, les Libanais qui prétendent pour certains qui sont les descendants des Phéniciens disent que c'est un des endroits dans lesquels l'alphabet a été inventé. J'ai jamais su si c'était vrai.
On ira vérifier. On arrive à vos bonus, Nabil Wakim. Alors, le Zaatar, je le prononce à la française, hein, je suis Edith Piaf.
Bien sûr, ouais. Bienvenue Edith, ouais. Piaf, bienvenue, bah oui, dans Remède à la mélancolie, ouais. Edith Piaf.
Mais elle aurait bien mieux prononcé que moi. Le Zaatar, une épice libanaise qui résout tous les problèmes. Et alors vous en parlez dans l'Arabe pour tous, c'est un mélange de thym, de sumac et de sésame. Et dans votre famille, on en met partout. Vous avez même réussi à corrompre une boulangère lyonnaise.
Enfin ça, c'était mes parents qui, quand on était gamin, effectivement, avaient passé un deal avec la boulangère du quartier pour qu'à la fin de sa fournée, bah, elle fasse des croissants au Zaatar. Ce que je recommande à tout le monde, donc vous prenez du Zaatar, vous pouvez en trouver dans une boutique orientale, vous mélangez avec de l'huile d'olive et vous mettez à l'intérieur d'une pâte et puis vous mettez au four.
Si vous êtes au régime.
Et absolument, c'est absolument un plat de régime, mais malgré tout, ça, je peux vous dire que ça résout énormément de problèmes.
Alors, quel problème, par exemple?
Une difficulté à se réveiller le matin, par exemple. Voilà, ça, le Zaatar, ça peut... Voilà. Une fatigue de fin de journée. Voilà, ça aussi, ça peut aider à résoudre
donc
ça.
Donc, des petits problèmes.
Voilà. Bien sûr que non, c'est ça, les vrais problèmes de qu'on rencontre chaque jour.
Non, mais si un chagrin d'amour, un deuil... Du Zaatar, bah c'est bon.
Non, là, il faut passer, effectivement, je pense au stade du chocolat.
Ah oui.
Une tablette entière de chocolat qui peut être ingurgitée après un repas qui contient beaucoup de Zaatar.
D'accord.
Et éventuellement des aubergines.
Alors justement, on y arrive, mais avant, vous recommandez, Nabil Wakim, l'eau de fleur d'oranger, un délice qui résout les problèmes causés par la consommation trop importante de Zaatar.
C'est-à-dire que les Libanais ont une gastronomie qui est très riche, et qui est souvent saluée à travers le monde, mais elle est riche aussi parce qu'elle est nombreuse, donc les repas sont souvent assez longs, et on mange beaucoup de choses, et donc souvent juste on a mal au ventre. Et donc dans ma famille, historiquement, pour résoudre les problèmes de maux de ventre, on boit un peu d'eau de fleur d'oranger avec de l'eau chaude, éventuellement un peu de sucre, et on prétend que ça résout la plupart des problèmes qui nous sont posés quand il s'agit de problèmes gastriques. Hein.
Tout est bon pour le sucre.
Absolument.
Et alors, l'eau de fleur d'oranger, Nabil Wakim, vous l'achetez en bouteille telle quelle dans une épicerie?
Non, moi je la reçois du Liban par un circuit qui était celui de ma grand-mère, qui est maintenant décédée, mais dont les circuits subsistent dans un village du sud Liban. Je ne sais pas comment elle est produite, je ne sais même pas s'il y a vraiment de l'eau de fleur d'oranger dedans.
La mafia de l'eau de fleur d'oranger.
Absolument un sujet d'enquête que vous pourrez lire
dans votre prochain livre. Et alors, les aubergines avec ou sans ail? Une petite recette, Nabil Wakim.
Alors, des tranches d'aubergines que vous mettez au four, tout simplement, vous les couper assez fines, voilà, avec beaucoup d'huile d'olive et de l'ail, dessus, et voilà, ça fera votre bonheur si jamais la tablette de chocolat n'a pas suffi.
Sel, poivre?
Sel, poivre, c'est possible, bien sûr, bien sûr.
Les petits déjeuners avec ou sans aubergine, ail et Zaatar? Avec quoi d'autre, par exemple?
Tout ce qui est salé est bon au petit déjeuner. Voilà, c'est un conseil à la fois nutritionnel, mais c'est surtout le vrai remède à la mélancolie. C'est-à-dire, si vous voulez passer une bonne journée, faites un vrai repas au petit déjeuner. Ce matin, j'ai mangé des avocats, de la feta, des raisins secs, un délicieux pain grillé. Je peux vous dire, je passe une excellente journée avec Eva Bester.
Simplement, grâce à ce petit déjeuner?
Aussi grâce à ce petit
donc
déjeuner.
Tous les gens qui vont manger ce petit déjeuner vont passer une excellente journée avec moi en plus.
Bien sûr.
Non, ne mangez pas ça tous en même temps. Le parc de la Tête d'Or à Lyon, vous avez étudié. Alors, est-ce que c'est à cause des biches, Nabil Wakim?
Alors, j'adore les biches du parc de la Tête d'Or. J'ai grandi à Lyon et pas très loin du parc de la Tête d'Or. À Lyon, on considère que c'est l'équivalent de Central Park, voire que Central Park à New York, c'est un peu nul si on le compare au parc de la Tête d'Or. C'est-à-dire, c'est un endroit magnifique, il y a des animaux, c'est gratuit, et c'est aussi un endroit de brassage de toutes les populations de la région lyonnaise qui viennent jouer au foot et manger de la barbe à papa, ce qui est quand même assez sympa.
Et c'est magnifique, c'est vrai, et les biches sont en liberté. dans mon souvenir.
Non, elles sont pas vraiment en liberté, non.
Ah bon?
Elles sont dans un endroit qui est assez grand, mais j'appellerais pas ça.
Mais je me souviens que j'avais eu quelques causeries avec certaines d'entre elles.
C'est possible, mais c'est une conception assez restrictive de la liberté.
D'accord. D'accord. Et alors, on finit par un forum. Le forum de Reddit r/askhistorians, dans lequel des historiens répondent à des questions précises sur l'histoire. Vous, Nabil Wakim, vous avez fait des études d'histoire. Vous avez déjà posé une question sur ce forum?
Non, je suis ce qu'on appelle dans la communauté de Reddit, donc il y a un forum mondial, surtout en anglais, mais qui existe aussi en France, qu'on appelle un lurker, c'est-à-dire que je viens regarder mais que je ne participe pas. Mais je vous invite toutes et tous à aller poser des questions si vous avez des questions absurdes sur l'histoire, du style « mais que mangeaient les gens au Moyen-Âge quand ils étaient paysans ?» ou par exemple, voilà, « comment s'habillaient les Romains avant de se coucher ? Qu'est-ce qu'ils mettaient comme genre de pyjama ?» Eh bien, il y a toujours un historien incroyablement spécialiste ou une historienne formidable qui vient répondre de manière ultra détaillée à ces questions. Et ça, je trouve que c'est une formidable expression de l'intelligence collective et que c'est plein d'espoir.
Qu'est-ce que vous avez appris d'insolite sur ce forum, Nabil Wakim ?
Et ben, par exemple, qu'au Moyen-Âge, les gens laissaient toujours bouillir la marmite et qu'en fait, ils mangeaient toujours le même plat dans lequel ils rajoutaient des choses au fur et à mesure. Ce qui veut dire que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, ils mangeaient cette espèce de même bouillie, souvent sans viande, s'ils étaient peu fortunés, ce qui était quand même le cas de la plupart des gens. Ça, je suis d'accord que c'est un peu moins porteur d'espoir.
Oui, mais ça permet de relativiser aujourd'hui. Donc, pas mal. Bravo. Bravo et merci, Nabil Wakim, d'être venu dans cette émission partager vos remèdes.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous avez publié en octobre dernier l'essai L'Arabe pour tous aux éditions du Seuil et qu'on peut lire vos papiers dans le cahier économie du quotidien Le Monde. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission, ils vous attendent. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme possède un entrain supérieur à celui d'une flèche émoustillée. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.